BPM Vernon, 99.3. BPM, élections municipales 2020.
Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, nous recevons aujourd'hui Pierre-Yves Jourdain de la liste Vernon, écologie et citoyenne. Pierre-Yves Jourdain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre liste a reçu le soutien d'Europe Écologie Les Verts et vous représentez Madame Laurine Balicki, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui est candidate à la mairie de Vernon. Alors Pierre-Yves Jourdain, vous avez 41 ans, vous êtes en couple et avez un enfant. Vous travaillez depuis 20 ans dans la production cinématographique et enseignez également à Saint-Quentin en Yvelines. Dans votre jeunesse, vous êtes impliqué dans la protection des sans-abri. Vous êtes ensuite tourné vers l'écologie et l'engagement syndical. Pour vous, une des clés essentielles a été de comprendre que l'homme ne doit pas être en lutte contre la nature, mais il doit en faire partie et y prendre pleinement sa place. Vous trouvez que cette question est flagrante dans l'agglomération de Vernon, où des terres agricoles sont bétonnées pour laisser place à des zones commerciales, où des zones protégées essentielles à la biodiversité sont menacées pour construire des hôtels. Votre volonté première est de redonner toute sa place à la nature. Vous pensez que Vernon est une ville qui a tous les atouts pour entamer une transition écologique indispensable pour le futur. Alors, première question, vous souhaitez veiller à la transparence de la vie publique et développer une démocratie participative continue. Pourquoi et par quels moyens, avec quels moyens?
Les moyens, aujourd'hui, ils sont nombreux. Le premier, c'est que on peut passer par l'open data, très simplement. Aujourd'hui, si vous voulez trouver le budget ou l'ordre du jour du dernier conseil municipal, je vous souhaite bien du courage parce que c'est pas évident sur le site. Et ça, ces informations, elles peuvent être beaucoup plus facilement accessibles, tout simplement en refondant le site. Pour remettre de la transparence, derrière l'idée, c'est aussi que la politique appartient à tout le monde et pas seulement à ceux qui la font. Et aujourd'hui, on a l'impression, à Vernon, mais comme dans plein d'autres villes, que toutes les choses se décident dans des cabinets et que les seules façons qu'on a de consulter la population, c'est sur un format plébiscitaire, c'est-à-dire que les décisions sont déjà faites et quand on fait une consultation, c'est plutôt pour demander l'approbation et expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser que vraiment prendre en compte leur avis.
Justement, là, la municipalité sortante a fait des consultations publiques. Première proposition, deuxième proposition, ça va pas assez loin?
Alors, c'était une grosse blague, parce qu'il y avait trois propositions sur le cœur de ville. Une première qui était moche et trop chère, puis une proposition 2 et 3 qui n'avait pour simple variation que la possibilité d'avoir du stationnement ou pas sur la place Charles de Gaulle. Une concertation, normalement, doit pouvoir permettre à la population d'amender le projet. Or, c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que je reparle de démocratie publicitaire, c'est-à-dire pour, contre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de revenir vers les citoyens pour leur demander leur avis, parce que très souvent, les gens savent ce dont ils ont besoin et ils sont eux-mêmes apporteurs de solutions. Nous, c'est ce qu'on essaie de défendre dans la démocratie participative, c'est que la mairie, la puissance publique, est là pour poser des constats. On veut améliorer une accessibilité, on veut changer une trame verte dans une ville. Et là, la concertation, elle amène les citoyens à apporter leur expertise sur le sujet, et là c'est au service de les mettre en forme, de les mettre dans la légalité, tout le monde n'est pas forcément juriste, et de donner les moyens de mettre en œuvre ces politiques-là. Et surtout, l'idée qu'il y a derrière la démocratie participative, c'est de rendre les citoyens réellement acteurs de leur destin, et de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Et donc de remettre un petit peu le processus de décision du bas vers le haut. Et, typiquement, nous ce qu'on aimerait beaucoup pouvoir faire, c'est de remettre un petit peu sur pied les conseils de quartier qui sont devenus en fait des espèces d'entretien individuel avec des élus de la mairie, de laisser les citoyens en gestion de leur conseil de quartier et que ce qui importe au conseil de quartier soit remonté au conseil municipal et discuté sans que les élus viennent mettre leur doigt dedans.
Mais ça implique une mobilisation, de mobiliser justement les citoyens à participer à ces conseils de quartier. On le voit, les gens sont plutôt attentistes.
Mais ils sont attentistes parce que ils pensent que ça sert à rien et souvent ils ont raison parce que quand on l'a vu récemment avec la question des gilets jaunes, les gens ils descendent sur les ronds-points, ils ont plein de choses, plein de revendications et puis autant pisser dans un avion l'eau, il se passe rien. Donc l'idée c'est de revenir sur des basiques entre autres, un des projets phares, je pense, de notre programme, c'est de mettre un budget participatif. Parce que le budget participatif, il démarre avec un appel à projet totalement libre. N'importe quel citoyen, n'importe quelle association peut déposer un projet et on prend tout, même les choses les plus farfelues. Et des choses qui peuvent sembler farfelues sont parfois d'excellentes idées. Et il faut pas éliminer les idées à l'avance. Et de se rendre compte aussi des convergences. On est souvent confronté à sur des questions comme ça de voisinage ou de micro-aménagement. On se sent parfois seul et on peut se rendre compte que sur un appel à projet comme ça, on va être 4-5 personnes à déposer des choses un peu similaires, et bah du coup on va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans un autre cadre, se mettre à discuter ensemble, et ça recrée du lien et de la démocratie, et puis ça rend l'idée que ce ne sont pas les citoyens qui sont au service de l'État, mais bien l'État qui est au service des citoyens.
Alors selon vous, la ville de Vernon a de nombreux atouts qui permettent de proposer un cadre de vie agréable, mais ce dernier est menacé d'une part par un déficit démographique de plus en plus grand et d'autre part par les urgences climatiques, sanitaires et sociales. On rentre vraiment dans le cœur de votre programme. Que comptez-vous faire pour régler ces deux problèmes ?
La liste pourrait être très longue, mais avant tout, le problème...
On n'a que 20 minutes. Hein.
Voilà, c'est une question d'attractivité. Si le seul projet qu'on a pour Vernon, c'est d'en faire une banlieue de l'ouest parisien très éloignée et d'y apposer des services pour des familles, on va dire, plutôt aisées, mais pour qui les Yvelines et les Hauts-de-Seine, c'est déjà trop cher et qu'on va être la banlieue de la banlieue, il ne faut pas s'étonner que la cité est périclite. Il y a des gens qui sont là, il y a eu pas mal d'activités, entre autres sur le plateau, des activités polluantes.
Oui, pour le coup,
voilà.
Quand on voit un test de moteur, c'est...
Donc, on est encore sur un site Céveso et le plan de prévention des risques, quand on regarde un petit peu, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais ça a permis aussi d'avoir de longue date une expertise, des cadres, des ingénieurs, des sièges d'entreprise. On a une proximité à la fois à la mer et on est sur l'axe Rouen-Le Havre qui est un axe économique important. On reste à une portée raisonnable de Paris. Et ça, c'est des atouts géographiques qui permettent de maintenir un emploi à Vernon et qui soit dans un rayonnement relativement local. Et en particulier, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements pendulaires. Il faut savoir que quasiment la moitié des gens qui travaillent à Vernon vont travailler justement à Paris ou dans l'Ouest parisien. Et une grande partie de ces emplois-là pourraient tout à fait être faits à Vernon. Le fait d'avoir moins de trajets, plus d'activités localement, c'est aussi moins de pollution, moins de circulation, etc. Et donc relocaliser l'activité, qu'elle soit du tertiaire, mais aussi les activités de transformation. Il y avait des entrepôts, des usines, il y a encore quelques artisans qui travaillent très bien ici. Et puis un peu au-delà, sur l'agglomération, hein, parce qu'on n'est pas un petit territoire, village gaulois isolé. Au contraire, c'est une ville très connectée. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer avec nos atouts.
Mais justement, de l'activité, il devrait y en avoir. Vous devriez être content. On va avoir le village des Marques, la ferme des 1000 vaches, l'hôtel de luxe. Mais ça ne remporte pas vos suffrages.
Mais le tourisme, c'est intéressant. Mais le tourisme, c'est intéressant. C'est créer une activité avec les gens qui sont là localement. Nous, on a un gros souci à Vernon parce que la gare est une des plus importantes de Normandie. C'est quasiment la deuxième en trafic voyageur après Rouen. Parce qu'il y a le musée de Giverny. On ne capte rien. Économiquement de ce trafic-là, tout va directement sur Giverny et c'est pas un hôtel de luxe qui améliorera les choses. Le tourisme, faut savoir que les premiers touristes sur un endroit, ce sont les gens qui l'habitent. La première origine des touristes à Paris, c'est les Parisiens, et les premiers touristes en Normandie sont les Normands. Et donc cette offre-là, il faut d'abord qu'elle soit accessible aux Vernonnais, et encore une fois, on est sur la relocalisation. Si des services et des activités ne sont pas en premier lieu destinés aux gens qui y habitent et qu'on est que dans on le voit en ce moment avec la crise du coronavirus, où il y a plein de choses qui sont en pénurie parce qu'on les fabrique à l'autre bout du monde, et ben on est dans ce genre d'absurdité. Si on fait des trucs pour des gens qui viennent de l'autre bout de la planète, le jour où ils arrêtent de venir, l'activité s'étouffe, et puis surtout, ça n'a plus aucun intérêt pour les gens qui sont sur place. Donc c'est aussi l'idée de relocaliser les activités. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais un des premiers... levier, c'est que il y a beaucoup de terres agricoles sur l'agglomération au niveau de SN1 et c'est principalement des céréaliers sur de l'agriculture intensive, c'est pas du tout le modèle agricole d'avenir et que là il faut accompagner les gens. On a tout le débat sur le glyphosate, mais les premières victimes du glyphosate, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont des cancers avant 60 ans. Dans le cinéma, il y a un film qui a très bien marché récemment sur cette question-là. Donc, c'est pas des choses qui sont secrètes. Maintenant, les gens sont au courant et il faut encourager les gens à la conversion. Et c'est là où les puissances publiques peuvent aider.
Alors justement, sur l'agriculture, sur ces champs qui nous entourent, qui pourraient être justement utilisés pour produire des aliments, une alimentation locale 100% bio, que vous voulez justement mettre en restauration collective, et vous voulez justement pour les enfants, les seniors, comment comptez-vous vous y prendre pour nous convertir?
Ouais, c'est une question, la question est de donner l'exemple. Un agriculteur qui se convertit en bio, il peut pas avoir le label les premières années parce qu'il faut dépolluer les sols. Les terres, elles sont disponibles. On est bien capable de trouver plusieurs hectares pour construire un centre commercial qui va peut-être créer 600 ou 700 emplois, mais qui en va détruire au moins le même nombre, si ce n'est plus en centre-ville. On a plein d'études aujourd'hui dans toutes les villes moyennes qui montrent que ce genre d'activité commerciale, c'est très destructeur d'emplois sur l'ensemble, et que ça participe complètement à la désertification des centres-villes. Ce village des marques qui ouvre, c'est des rideaux fermés dans les rues du centre-ville, donc ça, c'est pas très heureux. Mais en plus, ça vient gâcher des terres qui peuvent permettre cette conversion au bio, et parce qu'on manque aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs de terres convertibles qui sont chères. Donc ça, on peut aussi réaiguiller. Et pour encourager les gens, ils ont besoin de débouchés. Les premières années en bio sont compliquées, et c'est là où la commande publique peut aider, avec toute la restauration.
Vous seriez prêt à faire des contrats,
et contrats à mettre de conversion dans les contrats bio.
Des clauses fortement incitatives vers les producteurs locaux, vers des producteurs locaux.
Exactement. Dans un monde idéal, il faudrait que le territoire de Vernon soit autonome en alimentaire. Aujourd'hui, on produit 4% de ce qu'on mange. Avec tout ce qu'on a comme surface agricole, c'est pas acceptable. Et parce qu'on produit surtout de la céréale qui est pas du tout consommée ici, qui sert à l'agriculture intensive et pas forcément en France en plus.
Alors,
un exemple, on parlait de la ferme des 1000 vaches, faut savoir que, donc, il va a priori pas se faire, en tout cas pas sous ce format-là. Ce sont des Belges qui la tiennent. Et le lait devait partir pour faire des trucs genre vache qui rit, c'est pour faire du fromage industriel. On est en Normandie, le camembert, on a le Calvados pas loin. Voilà, je comprends même pas qu'on puisse envisager des projets pareils aujourd'hui.
Le camembert ou lait cru, justement.
Ouais, c'est très bien, on maintient le camembert lait cru.
On y arrive. Hein.
Ouais. Et justement, ouais.
Alors parlons un petit peu d'autonomie énergétique de la ville. On vient de parler d'autonomie alimentaire. Au niveau des énergies, vous souhaitez limiter l'éclairage public, vous voulez améliorer la qualité de ces logements passoires en énergie et ou encore installer des panneaux solaires sur les toits des collectivités.
Mais c'est un ensemble, hein. Toujours, il n'y a pas de solution miracle. Ce qui nous permet d'avancer, c'est une addition de petites mesures qui finissent par avoir un impact. Nous, entre autres, on est très inspiré par un collectif qui s'appelle Negawatt. C'est un collectif de scientifiques et de spécialistes, entre autres, des questions d'énergie. Ils sont plusieurs dizaines, voire centaines. Et régulièrement, ils mettent à jour un scénario de transition énergétique pour la France. Ça s'appelle négawatt parce que la première ressource d'énergie qu'on a, c'est l'énergie et l'énergie qu'on ne va pas consommer. Et aujourd'hui, on a énormément de déperdition d'énergie sur ces questions-là. L'éclairage public, même s'il y a des progrès qui ont été faits récemment avec les éclairages à LED qui coûtent cher au départ, mais qui s'amortissent sur le long terme. Mais on va pas se mentir, l'énorme déperdition au niveau des villes, c'est par la question du chauffage. L'isolation des toits, aujourd'hui, à Vernon, on a 30% de logements sociaux. Donc c'est un truc sur lequel on a un levier en étant à la mairie, les bailleurs sociaux, il faut les accompagner, les encourager à la rénovation thermique de leurs bâtiments, en particulier par les toitures. Dans le logement collectif, il y a deux choses. Si déjà en isolant la toiture, on peut réduire de 30% la consommation énergétique. Par ailleurs, la pose de panneaux solaires et surtout sur du collectif, quand il commence à y avoir 5-6 habitations dans le même bâtiment, même avec la météo changeante qu'on a chez nous, ça peut alimenter en eau sanitaire une grande partie des besoins et de fait mettre du chauffage. Donc là, c'est de l'argent qui est investi à un endroit. Aujourd'hui, on a un plan façade à Vernon qui est un bide. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Et puis, il y a eu peu de réalisations de fait. Moi, je préférais qu'on mette cet argent-là sur une rénovation qui va remplir deux objectifs à la fois. Un, on va réduire notre facture énergétique, ça c'est évident, et donc c'est meilleur pour la planète. Mais ça va, en premier lieu, bénéficier aux plus modestes, parce que les gens qui payent 200, 300 euros d'électricité, est-ce que quel montant de leur loyer, il y en a plein.
On va passer maintenant au marché public. Vous souhaitez imposer des appels d'offres publics qui intègrent des emplois locaux et un bilan carbone neutre. Alors les emplois locaux, ça paraît facile. Le bilan carbone neutre, ça paraît plus compliqué suivant les corps d'État.
C'est un cahier des charges, on peut rédiger les clauses.
Vous prenez certaines compagnies qui vous disent « Non mais moi mon vol il est bilan carbone neutre parce que je plante des arbres, qu'on voit jamais d'ailleurs. » Ça serait ça comme solution ou...
En allant un petit peu au bout, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Je pense que ça va aller plus loin dans la responsabilité écologique des fournisseurs. Il y a des organismes maintenant qui font des certifications là-dessus. Il y a la fondation, entre autres, de Yannatius Bertrand, Good Planet, qui a fait tout un travail là-dessus, la fondation Nicolas Hulot. Donc, on peut aussi, nous, exiger certains labels. La fraude, c'est autre chose, hein. Il y a toujours des gens pour contourner le système, mais déjà, de l'imposer, on revient à la question de l'exemplarité. Le meilleur moyen de convertir les gens à la nourriture bio, c'est que leurs enfants en aient tous les jours à la cantine. Et bah, c'est pareil, le fait de convertir les gens à un mode de production plus respectueux des cycles, et en particulier du cycle du carbone, bah, ça commence par la commande publique, à pas faire n'importe quoi, à pas commander des bus électriques, ah, c'est super, c'est écolo, mais ils ont été fabriqués en Chine.
Et avec des batteries qui utilisent aussi beaucoup de métaux rares et qui ont des impacts environnementaux assez forts. Hein.
Voilà.
Alors, le temps passe très vite, hein, il ne nous reste plus que 3 minutes. On va passer malheureusement quelques sujets très vite. Vous souhaitez créer des lieux intergénérationnels de vie, d'échange et de culture. Quels seront ces lieux? Comment est-ce que vous voyez la chose?
Alors, c'est compliqué en aussi peu de temps de pouvoir développer la question. Non, mais c'est moi qui suis long aussi.
Vous aurez
mais...
plus de temps au deuxième tour.
Il y a une offre culturelle qui n'est pas inintéressante à Vernon, mais qui est très centralisée et surtout qui s'adresse à des gens qui ont déjà les codes culturels. La question des pratiques culturelles, elle est hyper importante. En plus, moi, c'est mon métier. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. On a un peu déserté les quartiers. L'espace Philippe Auguste à côté d'ici, ça marche pas trop mal. Et c'est un certain public. Donc, il faut des espaces qui soient mis à disposition partout. Et pas uniquement pour faire du foot pour les garçons et de la danse pour les filles. Il y a plein d'autres activités.
Vous parlez de multiculturalité. Hein.
Ouais. Et donc, il y a des activités qui peuvent être faites de façon intergénérationnelle. On a de plus en plus la question du troisième, voire du quatrième âge qui se pose. On a aussi des personnes âgées qui sont isolées parce que leur famille n'est pas là. Et que d'avoir des lieux d'échange autour d'activités culturelles, qui encore une fois ne sont pas que des choses déjà très ciblées, ça peut permettre à ces générations de se rencontrer et d'échanger. Moi, très modestement, moi plus jeune, je visitais des personnes âgées, j'avais l'âge de ma fille, il y a 7 ou 8 ans, par le biais des petits frères des pauvres, et bah, c'était hyper enrichissant, nous, de rencontrer des gens qui étaient nés au siècle d'avant, donc là je parle du 19e siècle, et eux, ça leur faisait quand même un... quelque chose d'autre dans la journée que juste la succession des repas qui se passent. Là, c'est un premier échelon. Si ça se fait en plus sur des pratiques culturelles, donc du jeu, du théâtre, du ciné-club, c'est un gain pour tout le monde. Et puis, ça manque vraiment de lieu d'échange. Et après, encore une fois, nous, on est en démocratie participative, donc c'est aux gens de s'en emparer. Il faut mettre les lieux à disposition, il faut leur donner les moyens, mais après, c'est eux qui en font quelque chose.
Eh bien, merci Pierre-Yves Jourdain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h et à 18h30. Demain, à 7h30, nous recevrons Gabriel Sineau de la liste Vernon Ville Citoyenne. Et à 8h30, nous recevrons François Ouzillot de la liste Génération Vernon. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM Vernon.
BPM, élection municipale 2020.